Bienvenue dans cette nouvelle émission Europe et Union européenne. Je suis avec Elia et le sujet du jour est celui de la défense européenne. Elia, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'histoire de la défense européenne?
Bien sûr. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux priorités régnaient dans les esprits. La première, éviter un nouveau conflit entre la France et l'Allemagne. La seconde, se protéger contre la menace soviétique. Avec l'appui des États-Unis, notamment en matière de reconstruction, Jean Monnet et Robert Schuman se lancent alors dans le projet de la construction européenne. Le 17 mars 1948, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg signent un traité censé poser les bases d'une Europe unie et d'une défense mutuelle, le traité de Bruxelles. Mais peu à peu, la guerre froide s'installe, d'autres organisations telles que la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou l'OTAN voient le jour, le traité de Bruxelles se vide de sa substance. Les débats sur la possibilité d'une défense commune en Europe ne s'arrêtent pas pour autant. En 1952, un nouveau traité instituant une Communauté européenne de défense est signé par 6 États européens. Seulement, de nombreux désaccords autour de ce traité remuent les États signataires. Certains le considèrent comme la suite logique d'une solidarité européenne face à la menace que représente l'URSS. D'autres y voient une véritable déchéance de souveraineté pour les États membres. De plus, le contexte international change peu à peu. La guerre froide semble prendre un tournant moins rude. Le traité ne sera donc jamais ratifié par l'entièreté des 6 pays signataires et la communauté européenne de défense n'entrera jamais en vigueur.
Donc la politique de défense a donc enchaîné les défaites depuis ses débuts. J'imagine qu'avec l'arrivée du célèbre traité de Maastricht, les choses ont commencé à changer.
Oui, en 1992, date de signature du traité de Maastricht, naît l'Union européenne, et avec elle la PESC, la politique étrangère de sécurité commune. Ses objectifs sont de préserver la paix, la démocratie, les droits de l'homme et la liberté fondamentale dans le monde. Une première réussite dans l'institution d'une défense européenne, 44 ans après le traité de Bruxelles. Le domaine de la défense au sein de l'Union européenne se développe au fil des années à travers plusieurs institutions. La PESC est d'abord complétée en 1998 par la politique étrangère de sécurité et de défense commune, qui rend possible la mise en commun des moyens militaires, ce qui a par exemple permis en 2005 une opération militaire en République démocratique du Congo. En 2004 naît l'Agence européenne de défense, dont le rôle est de favoriser la coopération entre États européens en matière d'armement. Puis en 2007, la PESC est encore une fois renforcée par une autre politique, la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Plus récemment, en 2010, est créée l'institution Europol, qui permet aux polices nationales de chaque État européen de lutter de concert en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale et de pédocriminalité au sein de l'Union européenne. En 2021, l'UE met en place un fonds européen de la défense permettant aux industriels de ce secteur de coopérer et d'investir davantage dans la recherche et le développement.
Il y a donc eu beaucoup de changements depuis 92, de nombreux acronymes aussi ont vu le jour. Mais comment est-ce que cela se traduit-il sur le terrain? Est-ce qu'il existe des opérations militaires qui sont menées par l'Union européenne?
Eh bien, malgré ce que l'on pourrait croire, l'Union européenne mène bel et bien en ce moment de nombreuses opérations civiles et militaires à l'étranger sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Voyons-en quelques exemples. Il y a d'abord l'EAM Ukraine, mise en place en 2022. Cette opération civile vient en aide aux polices ukrainiennes afin d'assister le départ des réfugiés ukrainiens et de faciliter l'entrée des aides humanitaires. En avril 2023, par exemple, la mission offrait aux populations ukrainiennes un soutien psychologique et social, ainsi que des équipements essentiels afin de combler les pertes dues à la guerre et au pillage russe. Nous pouvons citer également les missions de partenariat militaire entre l'Union européenne et le Niger. Ici, l'Union européenne vient soutenir les forces nigériennes dans leur lutte contre les groupes terroristes de la région. Elle aide au dialogue, à la consolidation de la paix et à la formation des forces armées nigériennes. L'opération Althea en Bosnie-Herzégovine est la plus importante opération militaire de l'UE. Elle a débuté en 2005 sous mandat de l'ONU. Elle a pour objectif de créer un environnement sécurisé et stable en Bosnie-Herzégovine, notamment en y formant les forces de l'ordre. Enfin, en janvier dernier, l'Union européenne s'est engagée à lancer une nouvelle mission en mer Rouge au large du Yémen afin de protéger la marine marchande ciblée par des frappes Houthis, groupe armé rebelle yéménite. Plus de 23 opérations européennes civiles et militaires sont en cours. Elles ont lieu majoritairement en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Il faut cependant faire attention lorsque nous parlons de missions de défense et de sécurité. L'Union européenne ne fait pas la guerre. Ces opérations restent des missions de maintien de la paix, de conseil et d'assistance des forces armées étrangères et de lutte contre le terrorisme.
23 opérations, ça fait beaucoup, et justement, comment sont prises ces décisions pour intervenir à travers le monde ?
Comme dans un État souverain, les missions de défense ne sont pas simples, ni dans leur mise en place, ni dans leurs décisions. Alors que les décisions de l'Union européenne sont pour la plupart votées au Parlement en matière de défense, la procédure est différente. En effet, l'Union européenne n'ayant pas d'armée attitrée et pas de compétences de défense propres, ce sont les États qui envoient leurs soldats, leurs policiers et leurs outils militaires lors des missions au nom de l'Union européenne. Légitimement, ce sont donc les gouvernements de chaque pays qui décident des opérations en votant à l'unanimité ou à la majorité qualifiée renforcée, c'est-à-dire au moins 70% des voix, au sein du Conseil européen. Le Parlement reste bien sûr informé de la décision. De plus, l'Union européenne est dotée depuis 2007 d'un comité d'état-major, composé des chefs d'état-major des États membres. Il prépare et dirige toutes les missions militaires de l'Union européenne et travaille avec le Service européen des affaires extérieures et le haut représentant des affaires étrangères, Josep Borrell. Ils forment ensemble une véritable aide à la décision pour le Conseil européen. Rappelons d'ailleurs qu'en 2019, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, annonçait vouloir mener une Union européenne géopolitique. Son projet n'est pas encore abouti, mais on peut dire que la place de l'Union européenne, des 27 États membres, a pris une toute autre dimension. Ce bond en avant en matière de décisions géopolitiques et militaires vient aussi à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis, il y a eu une accélération des orientations stratégiques en matière de défense. Par exemple, en 2022, l'Union européenne a adopté une nouvelle boussole stratégique censée orienter les actions et décisions de l'Union en matière de défense d'ici à 2030. Ainsi, celle-ci entend investir et agir davantage dans le domaine de la défense, renforcer la protection de son territoire, de l'espace jusqu'aux fonds marins, et enfin coopérer davantage avec les organisations extérieures comme l'OTAN, l'ONU ou l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est.
Comme toujours, ce n'est pas Bruxelles qui décide seul, mais bien l'ensemble des acteurs et actrices qui siègent dans les institutions européennes. Souvent d'ailleurs, il y a une confusion entre l'OTAN et l'UE. Pourrais-tu nous en dire plus ? Et par exemple, est-ce que tous les États membres de l'UE sont membres de l'OTAN ?
L'Union européenne et l'OTAN ont toujours été très proches, mais n'ont rien à voir. D'ailleurs, seulement 22 des 31 États membres de l'OTAN sont membres de l'Union européenne. Voyons donc quelles sont les relations entre l'UE et l'OTAN. Pour rappel, l'OTAN est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle a été créée en 1949 et réunissait à l'époque 12 États entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Au début des années 1990, l'Union européenne se retrouve donc à cheval entre sa propre politique de défense et celle de l'OTAN. Depuis 2003, ces deux institutions coopèrent. Ce sont les accords Berlin Plus qui fondent cette même année le partenariat stratégique pour la gestion de crise. Leur coopération s'est largement étendue depuis. À titre d'exemple, l'OTAN et l'Union européenne coopèrent dans la lutte contre les menaces hybrides, le renforcement des capacités de défense, l'industrie de défense et la recherche ou encore les impacts des changements climatiques en termes de sécurité. Depuis 2003, les deux organisations ont mené plusieurs opérations communes, notamment en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine. Les pays de l'UE et l'Union européenne elle-même restent très dépendants des États-Unis, contributeurs majoritaires au sein de l'OTAN en matière de défense. Cependant, la question qui se pose aujourd'hui est celle de l'autonomie de l'Union européenne face au potentiel abandon des États-Unis si l'ancien président Donald Trump parvenait à gagner les suffrages une nouvelle fois en novembre prochain. En effet, celui-ci est hostile à l'OTAN et a souvent menacé de quitter l'organisation au cours de son dernier mandat. Emmanuel Macron a d'ailleurs évoqué cette question lors de sa visite d'État en Suède en janvier dernier et a lancé un appel en faveur d'une Europe de la défense non pas indépendante de l'OTAN, mais plus autonome et souveraine.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le sujet de la défense européenne est clairement remis au centre des discussions diplomatiques. Que peut-on attendre de l'avenir de cette défense européenne ?
La politique de défense européenne fait face à de nombreux désaccords qui pourraient à l'avenir bloquer sa progression. En effet, certains États revendiquent la défense du territoire comme indispensable à leur souveraineté et à leur autonomie stratégique, quand d'autres pensent que la coopération militaire est la seule solution viable face aux enjeux contemporains. De plus, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les États européens voient l'OTAN comme la seule organisation actuellement en mesure d'assurer une protection en Europe. À ce titre, rappelons que dans 2 jours, le 22 février, cela fera 2 ans que la Russie a envahi l'est de l'Ukraine, violant le droit international. De plus, le gouvernement russe assume vouloir déstabiliser dangereusement les démocraties occidentales et les alliances traditionnelles. Selon les récentes déclarations de Vladimir Poutine, la Russie n'en est qu'à ses débuts. L'Union européenne a donc tout intérêt à se renforcer et à rester unie. Sur le sujet de la défense commune européenne, de nombreuses questions restent à traiter. La France apporte à la défense de l'UE un caractère considérable. En effet, la France est actuellement le seul pays de l'Union européenne à disposer de la capacité de dissuasion nucléaire. La question de mettre en commun cet outil de défense ultime est délicate, presque tabou, tant elle peut réveiller de profondes questions de souveraineté nationale. En plus de l'aspect militaire, on peut évoquer la question du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Même si, comme pour l'arme nucléaire, la question de souveraineté nationale peut se poser, un siège commun aux 27 États membres pourrait également avoir du sens en ce qui concerne le poids de l'Union européenne dans le monde. Par ailleurs, si une telle place devrait être reconsidérée, peut-être que d'autres réajustements seraient nécessaires au sein de ce Conseil de sécurité. Vous l'aurez donc compris, la défense européenne n'est pas une mince affaire, et en cette période de tension et d'instabilité, l'Union européenne saura-t-elle rester unie et forte comme elle le devrait ?
Merci Elia pour toutes ces informations et cette dernière question qu'il faut se poser et qui se pose d'ailleurs à tous les jeunes qu'on rencontre en intervention. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous au mois de mars prochain.